Sinescence. Immersion dans le cinéma sur Radio Shalom Bourgogne. Bonjour et bienvenue dans une toute nouvelle émission de Sinescence sur Radio Shalom Bourgogne, fréquence 97.1. Aujourd'hui, on replonge dans une période sombre de l'histoire de la France, celle où la collaboration franco-allemande s'est installée au cœur même de la société. C'est le récit que dépeint ainsi Javier Gianoli dans son film « Les rayons et les ombres » sorti en 2026. Le titre « Les rayons et les ombres » n'est pas un simple hommage littéraire, il constitue la clé de lecture esthétique et morale du film de Javier Gianoli, en reprenant celui du recueil poétique de Victor Hugo, publié en 1840. Gianoli inscrit son film dans une tradition romantique du contraste. La lumière n'existe que parce qu'on sait qu'il y a de l'ombre. Chez Hugo, les rayons, c'est la foi, la connaissance, la rédemption. Les ombres, c'est la faute, le doute, la chute. Et Gianoli transpose exactement cette tension dans son film pour interroger la zone grise de la collaboration. Cette part d'ombre que la France a encore du mal à regarder en face. Ainsi, si on rentre dans le détail, d'abord, il y a cet héritage hugolien. Hugo explore toujours la tension entre l'idéal et la corruption du monde, entre la pureté des sentiments et la compromission politique. Dans des poèmes comme « Écrit en 1846 » ou « À qui la faute », il dénonce la lâcheté des élites, la trahison des valeurs humanistes. Gianoli reprend exactement cette structure morale. Son film commence par la chute. Corinne Luchaire, humiliée en 1948, après la libération, pour remonter ensuite vers la lumière perdue, celle des idéaux pacifistes des années 1920. Cette inversion du temps, c'est la même progression que chez Hugo, la lumière initiale, l'amitié franco-allemande, la culture, la paix, se transforme peu à peu en ombre. La compromission, la collaboration, la honte. Et tout le récit suit cette logique de clair-obscur. Plus les personnages s'installent dans un monde brillant, raffiné, plus l'ombre morale s'épaissit autour d'eux. Enfin, il y a la question du sens moral. Le film refuse totalement le manichéisme. Il reprend cette idée hugolienne selon laquelle la faute individuelle est toujours le symptôme d'une maladie collective. Jean Luchaire n'est pas montré comme un monstre, c'est un homme cultivé, sincère, qui glisse lentement vers l'abjection en croyant servir la paix. Gianoli ne cherche pas à excuser, mais à comprendre. Il montre comment une société entière peut se laisser séduire par sa propre lumière au point d'oublier l'ombre qu'elle projette. Le film s'ouvre sur la chute de Corinne Luchaire. On la voit, actrice mondaine, fille du journaliste collaborationniste Jean Luchaire, rouée de coups à la libération. Ce prologue, brutal, silencieux, fonctionne comme une scène de jugement. La lumière du jour expose la honte. Et à partir de là, Gianoli remonte le fil du temps pour nous ramener dans les années 1930 et 40. Dans ce milieu où la famille Luchaire incarne une famille cultivée, pacifiste et aveugle. Le récit alterne donc entre ascension et déchéance et suit une logique de clair-obscur. Plus les personnages montent socialement, plus leur conscience s'assombrit. La structure en miroir entre l'occupation et l'épuration permet de montrer que le mensonge ne disparaît jamais vraiment. La collaboration n'est pas un accident, c'est le prolongement d'un confort intellectuel. Jean Luchaire, interprété par Jean Dujardin, apparaît d'abord comme un homme de paix, convaincu que la culture peut sauver l'Europe. Mais cette conviction se transforme peu à peu en compromission. Il devient le porte-parole d'un régime qui flatte son ego et son statut. Gianoli filme cette dérive sans rupture, dans une progression fluide, insidieuse, où chaque choix semble rationnel jusqu'à l'abjection. Et tout cela, on le découvre à travers la voix de Corinne. C'est elle qui raconte ces années, depuis l'après-guerre, une cigarette à la main, la parole régulièrement brisée par la toux que lui impose la tuberculose. Tout passe par son regard, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a cru comprendre, et surtout ce qu'elle n'a pas perçu. Sa mémoire est fragmentaire, hésitante, pleine de zones de flou. Elle ne cherche pas à analyser, elle se souvient. Et c'est précisément cette subjectivité, ces oublis, ses angles morts, sa naïveté qui donne au film sa force. En parlant, Corinne ne cherche pas à expliquer la collaboration, elle revit de l'intérieur, telle qu'elle l'a ressentie dans un milieu qui ne s'est jamais vraiment pensé comme fautif. Nous débutons ce voyage musical avec le titre « Un espion nazi » composé par Guillaume Roussel. Alors, dans cette deuxième partie, on entre vraiment dans la manière dont Gianoli met en scène le glissement moral des personnages. Et ce qui frappe d'abord, c'est la couleur. Le film installe un univers séduisant. Les intérieurs, les salons, les bureaux, les restaurants sont baignés de tons chauds, des ors et des bruns, des bordeaux. Tout respire le confort, le raffinement, exactement comme le milieu mondain dans lequel évoluent les Luchères. Mais au fil du récit, ces couleurs se densifient. Les rouges deviennent plus sombres, les verts plus lourds, les ors presque étouffants. L'image s'alourdit en même temps que les choix des personnages. Et à l'inverse, les extérieurs, beaucoup plus rares, sont gris, dépouillés, presque ternes. Le monde réel paraît moins accueillant que les salons. On comprend que ces lieux élégants fonctionnent comme un cocon, un espace qui protège, mais qui isole de la réalité. La lumière accompagne ce mouvement. Les visages sont souvent éclairés latéralement avec une partie dans l'ombre. C'est une manière de filmer des personnages qui ne se montrent jamais vraiment, qui vivent dans une zone intermédiaire entre ce qu'ils affichent et ce qu'ils taisent. Et puis, les sources lumineuses, les lampes, les lustres, les bougies, sont visibles dans le cadre. La lumière vient du milieu social lui-même. Ce monde s'éclaire, se met en scène, se regarde vivre. Et quand on arrive au procès ou aux scènes de foule, la lumière change complètement. Elle devient blanche, directe, beaucoup moins flatteuse. On passe d'une lumière qui enveloppe à une lumière qui expose. Les mouvements de caméra donnent aussi au film son rythme moral. La plupart du temps, la caméra glisse avec une grande fluidité, des travelling doux dans les couloirs, des mouvements circulaires autour des personnages, des déplacements continus dans les salons. Cette douceur visuelle donne l'impression que tout se déroule naturellement, sans rupture. La collaboration n'est pas filmée comme un choc, mais comme une continuité. Et puis, ponctuellement, Gianoli utilise la caméra à l'épaule, notamment dans les scènes où Corinne est affaiblie par la maladie. L'image devient plus instable, plus proche du corps. La mise en scène abandonne la maîtrise pour laisser apparaître la fragilité. Et cette fragilité, elle humanise même les personnages les plus compromis. Le cadre, lui, enferme littéralement les personnages dans leur milieu. Les personnages semblent pris dans des espaces trop étroits, comme s'ils étaient prisonniers de leurs environnements. Jean apparaît souvent au centre, en position de maîtrise, tandis que Corinne est cadrée de biais, reflétée, légèrement en retrait. Et puis, il y a le hors-champ, omniprésent par son absence. La guerre, les rafles, la violence ne sont jamais montrées. Le film reste dans les lieux où l'on parle, où l'on décide, où l'on se protège, pas dans ceux où la violence s'exerce. Enfin, le son enveloppe cet univers d'une douceur constante. Les ambiances sont feutrées, bruit des tissus, de verre, de pas amortis. Tout semble étouffé, comme si le monde extérieur n'avait plus de prise. Et au-delà de cette matière sonore, il y a la musique composée par Guillaume Roussel, qui joue un rôle essentiel. Ses compositions sont souvent lentes, pesantes, retenues avec des nappes de cordes qui s'étirent. Des motifs de piano discrets, presque étouffée, et une orchestration qui privilégie les timbres sombres. Ce sont des musiques qui creusent l'atmosphère, qui installent une gravité sourde. Elles soulignent la progression d'un malaise moral et la fatalité face au poids de la maladie. Et quand le film coupe cette enveloppe sonore, dans les scènes de confrontation, de jugement ou de maladie, le silence devient brutal. Il met les personnages à nu, comme si la mise en scène retirait d'un coup le vernis qui les protégeait. On poursuit notre voyage en musique avec le morceau Le Châtiment. Jean Luchaire, le journaliste, apparaît d'abord comme un intellectuel sûr de lui, convaincu que son influence médiatique peut préserver un équilibre politique menacé. Il se voit comme un homme de paix, un médiateur, quelqu'un dont la parole compte vraiment. Mais cette certitude, progressivement, devient un refuge. Chaque compromis trouve sa justification, chaque concession devient un geste raisonnable, chaque proximité avec le pouvoir allemand s'habille d'arguments culturels ou stratégiques. Jean ne bascule jamais d'un seul coup. Il s'enferme dans son propre discours, persuadé d'agir pour le bien, alors qu'en réalité il se laisse guider par le besoin d'être connu. Sa chute n'est pas celle d'un idéologue, c'est celle d'un homme qui confond son importance personnelle avec l'intérêt général. Corinne, elle, n'avance pas dans le film comme une innocente inconsciente, mais comme quelqu'un qui a choisi de ne pas savoir. Elle vit dans un milieu où la beauté, la jeunesse et le statut de son père lui garantissent le confort qu'elle accepte pleinement. Elle voit les signes, elle entend les conversations, mais elle préfère rester à la surface brillante des choses. Ce monde où l'on tourne des films, où l'on dîne, où l'on s'habille sans jamais regarder ce qui se passe derrière les portes closes. Son ignorance n'est pas naïve, elle est volontaire, parce qu'elle lui permet de continuer à profiter des avantages de la collaboration sans se confronter à ce qu'ils impliquent réellement. Et c'est dans ce contexte que surgit la phrase « Je suis innocente ». Je suis innocente. Elle n'apparaît pas tout au long du film, mais à deux moments décisifs. D'abord lors du tournage d'un film, puis à la fin, lors de la libération face au même réalisateur. Et chaque fois, elle la prononce comme si elle cherchait à se convaincre elle-même. Le ton n'est pas celui de la certitude, mais du doute. Cette phrase devient le symptôme de son rapport au monde. Une tentative désespérée de maintenir une version d'elle-même qui ne correspond plus à ce qu'elle a vécu. Otto Abetz, enfin, incarne une forme de pouvoir qui ne se montre jamais frontalement. Diplomate allemand, polyglotte, parfaitement intégré au cercle intellectuel parisien, il n'a rien d'un agent brutal. Son influence passe par la conversation, l'élégance, la courtoisie. Il comprend très vite les besoins de Jean, la reconnaissance, le statut, le rôle politique. et il sait exactement comment les activer. Rien chez lui n'est forcé, il propose, il invite, il valorise. Et c'est précisément cette douceur qui rend son pouvoir efficace. Otto n'impose pas la collaboration, elle se fait naturellement par sa proximité avec Jean. La relation entre Jean et Otto devient progressivement l'un des axes les plus troublants du film. Ils se rencontrent dans un contexte où l'on parle encore de paix, de rapprochement culturel, de diplomatie européenne. Les cercles qu'ils fréquentent comptent des militants pacifistes de tout horizon, y compris juifs, ce qui montre bien que ni l'un ni l'autre ne se situe d'emblée dans une logique de radicalisation et d'antisémitisme. Ils se reconnaissent comme hommes de culture, persuadés que la presse et la diplomatie peuvent encore infléchir le cours de l'histoire. Cette proximité intellectuelle crée l'illusion d'un dialogue entre égaux, d'une alliance fondée sur le respect mutuel. Mais cette égalité n'existe pas. Otto représente l'Allemagne, donc le pouvoir réel. Jean, lui, n'a que l'influence qu'il s'attribue. Cette asymétrie d'abord invisible devient le moteur de leur glissement. Jean a besoin de croire qu'il compte, qu'il pèse, qu'il participe à un projet européen. Otto sait parfaitement comment entretenir cette illusion. On fait une pause et on écoute le thème musical intitulé « Salaud ». Le motif de la maladie traverse tout le film, et il va bien au-delà du destin personnel de Corinne. Sa tuberculose n'est pas seulement un élément tragique, elle devient l'un des grands principes symboliques du récit. Giannoli établit un parallèle discret mais profond entre un corps qui se consume et une société qui se corrompt dans l'intérieur. Et ce qui frappe, c'est que dans les deux cas, le mal progresse selon la même logique, lentement, silencieusement, sans rupture spectaculaire. La dégradation commence bien avant le moment où elle devient visible. Comme la maladie, la collaboration s'installe avant d'être connue comme telle. Ce rapprochement se retrouve même dans le récit du film. À mesure que la maladie s'impose, le récit ralentit. La mise en scène suspend la fluidité mondaine des salons pour se resserrer sur les corps, sur l'essoufflement, sur une fragilité presque nue. Ces séquences déplacent le film. elle cesse d'être traversée par les séductions du monde social pour faire apparaître sa part d'usure. Là où les salons produisent l'illusion de maîtrise, la maladie introduit la vérité de la vulnérabilité. Ce ralentissement n'est pas un détour intime, il donne une profondeur politique au récit. Il suggère que les corps perçoivent parfois l'effondrement avant les consciences. Ensuite, le thème de la presse, lui, prend une dimension particulièrement forte. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de montrer un journaliste compromis, mais de comprendre comment le langage participe activement à la fabrication du consentement. La parole n'est pas un simple commentaire du pouvoir, elle devient l'un de ses instruments. Ce qui frappe, ce n'est pas le mensonge frontal, mais le travail de reformulation. On ne nie pas la violence, on lui trouve un récit acceptable. C'est là que le film est très juste. Il montre comment une politique oppressive se normalise à travers les mots. Les rafles deviennent des mesures d'ordre. Les persécutions se dissolvent dans le vocabulaire administratif. Les lois antisémites sont présentées comme des nécessités politiques ou des réalignements diplomatiques. Ce déplacement du réel par le langage est au cœur de la critique du film. Et tout cela traverse son aboutissement dans le procès final. Le thème de la mémoire et du jugement éclate ici, dans une scène qui rompt brutalement avec les nuances du reste du film. Ce n'est pas seulement une scène judiciaire, c'est une scène de dévoilement moral. Le juge n'accuse pas seulement Jean Luchaire, il démonte tous les arguments qui ont servi à rendre la collaboration acceptable, le pacifisme, le réalisme politique, le dialogue comme moindre mal. Ce que le film avait laissé dans l'ambiguïté, le procès le tranche. La force de cette séquence tient aussi qu'elle vise la vanité de Jean. Sa faute n'est pas seulement politique, elle tient à cette illusion d'avoir joué un rôle historique. Il s'est pensé médiateur alors qu'il a souvent été un homme séduit par sa propre importance. Le procès détruit cette fiction. Il ne reste plus le prestige du journaliste, mais la responsabilité de ses choix. Le jugement devient celui d'un système de justification autant que celui d'un homme. Et le film va à l'encontre de toutes ces stratégies de déresponsabilisation que Jean a mises en place tout au long du film pour soulager sa conscience. Lorsqu'il demande des laissez-passer à Otto pour certaines personnes ou lorsqu'il laisse des résistants lui voler du papier. Toutes ces petites tentatives d'auto-absolution s'effondrent. Nous poursuivons notre voyage en musique avec ce morceau composé par Guillaume Roussel, toujours issu de la bande originale du film. Le film dévoile une bourgeoisie qui ne se contente pas de vivre dans le confort. Elle s'abandonne à une véritable orgie sociale, où l'excès devient un mode de vie. Dans ces soirées mondaines, on continue de festoyer comme si la guerre n'existait pas. On boit trop, on mange trop, on se gave littéralement. Et Jean incarne cette gloutonnerie en se jetant sur les buffets avec une voracité presque indécente. Autour de lui, ses fêtes glissent vers des orgies mondaines où les corps circulent, où les relations deviennent des transactions, où la séduction, les faveurs et les protections s'échangent comme des biens de luxe. Mais le film va plus loin. Derrière les rires, les musiques et les lumières chaudes, il montre aussi les trafics qui prospèrent dans l'ombre. On y négocie des passe-droits, des informations, des alliances et même des trafics d'armes, dissimulés sous le vernis des conversations élégantes. Dans ce milieu, la corruption n'est pas un accident, c'est le fonctionnement normal. Tout s'achète, tout se vend, tout se troque. Ce que montre Gianoli, c'est que la collaboration ne repose pas seulement sur des idées politiques. Elle est nourrie par le plaisir, le confort, la jouissance et la volonté farouche de préserver un mode de vie luxueux, même au prix du déni moral. Elle se gave pendant que la France s'effondre, et c'est précisément cette obscénité sociale, cette manière de continuer à célébrer, à consommer, à profiter, qui rend la chute finale encore plus violente. Enfin, le film développe une idée très précise. La croyance absolue dans le dialogue peut devenir une forme d'aveuglement moral. Jean Luchaire se voit comme un médiateur, persuadé qu'il est encore possible de préserver un espace d'échange et de civilisation face à la montée du nazisme. Le film ne ridiculise jamais cette conviction. Au contraire, il la traite avec un sérieux, ce qui rend d'autant plus implacable la manière dont il en montre les limites. Peu à peu, le récit révèle que le dialogue auquel Jean s'accroche n'existe que dans un esprit. La barbarie n'entre pas dans la conversation, elle s'en sert. Jean croit maintenir une parole indépendante, mais il est déjà absorbé par le langage du pouvoir, reprenant ses formules, ses justifications, ses angles. Le film met ainsi en tension deux conceptions de la parole, celle humaniste, qui suppose que l'échange peut rapprocher les positions, et celle politique, qui transforme le dialogue en outil de domination. Jean reste fidèle à la première, alors que le monde autour de lui bascule dans la seconde. Et c'est là que se situe la thèse la plus dure du film. On ne civilise pas un régime totalitaire par la discussion, surtout lorsqu'il a déjà fait du langage un moyen de conquête. Pour conclure notre voyage en beauté, écoutons le morceau intitulé « La fin justifie les moyens », toujours issu de la bande originale du film. Merci d'avoir écouté le nouvel épisode de Cinescence, votre émission de cinéma. À très bientôt sur Radio Shalom Bourgogne, fréquence 97.1. Cinescence. Immersion dans le cinéma sur Radio Shalom Bourgogne.